Deutsche Welle. Vue d'Allemagne. Les élections législatives en Allemagne, c'est dans 4 jours. Que ce soit dans le journal télévisé hebdomadaire, à la radio ou dans Vue d'Allemagne, on ne parle plus que du scrutin qui va probablement reconduire Angela Merkel au pouvoir pour un 4e mandat. La question reste avec quel parti elle voudra, pourra et devra gouverner. Mais ça, on verra bien après le 24 septembre. Pour le moment, on est encore en pleine campagne électorale et l'heure est venue de nous pencher sur les affiches qui fleurissent un peu partout en Allemagne depuis quelques semaines. Audrey Parmentier nous en dira plus. Et puis on sortira prendre l'air à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne, car tout le monde ne se réjouit pas de la réélection attendue de la chancelière, pourtant pro-européenne. C'est Constance Wünkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Quand notre correspondante à Berlin pose un pied devant l'autre dans la capitale, elle tombe sur une affiche, puis deux, puis trois. Tous les partis politiques qui se battent pour décrocher des sièges au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, ont une ou plusieurs affiches. À quoi servent-elles et que disent-elles? Pour le savoir, Audrey Parmentier a rencontré Rupert Arends, il est directeur de l'agence de communication ANB1, qui s'intéresse notamment à la communication politique.
Ce qui frappe le plus, ce sont ces petites affiches en carton accrochées aux lampadaires ou encore aux arbres avec les photos des candidats locaux ou des têtes de liste des partis.
À ma connaissance, ces affiches existent depuis qu'il y a des élections. En ce qui concerne plus particulièrement ces petites affiches sur les lampadaires, elles étaient déjà là au début du siècle dernier. Elles ont succédé à ce qu'on appelait les hommes sandwich qui transportaient ces panneaux.
Petits comme grands, connus ou non, tous les partis ont leurs affiches, mais à l'heure de Twitter, Facebook et Instagram, pourquoi continuer à miser sur ces posters d'un autre âge?
On a aujourd'hui une palette bien étendue de canaux de communication à notre disposition, mais ce n'est pas pour autant que les nouveaux remplacent les anciens. Il est essentiel qu'un parti soit visible dans l'espace public, il doit afficher ses positions, être présent. La rue est l'un des canaux les plus efficaces, elle est incontournable en fait.
Rupert Arends observe de près les affiches électorales depuis des années. Et cette fois-ci, deux choses l'ont particulièrement marqué.
D'abord, les thèmes politiques sont quasiment absents de la campagne en général. Je parle de thèmes qui pourraient faire l'objet de débats. Et ensuite, la mise en scène, la conception esthétique des affiches s'est beaucoup modernisée. Elle est parfois même insolite, mais en général intéressante et efficace.
Le directeur de l'agence de communication ANB1 avoue un petit faible pour les affiches du FDP, ce parti qui était sorti du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, lors des dernières élections en 2013. Sur la plupart d'entre elles, dans des tons jaunes, roses et bleus, Christian Lindner, la tête de liste du Parti libéral, barbe de 3 jours, costume décontracté, regard langoureux et des slogans qui donnent à réfléchir tels que « la digitalisation change tout ». Quand est-ce que change la politique?
Le FDP veut entrer de nouveau au Bundestag, donc, contrairement au SPD, qui devrait se présenter comme une alternative à la CDU, mais qui ne le fait pas vraiment, le FDP doit se présenter comme un enrichissement pour le prochain Parlement. Et je trouve qu'il y parvient très bien. Ces affiches sont modernes, plaisantes, elles ressemblent à des publicités de mode pour des grandes marques ou encore à des affiches de concerts d'une pop star. Et dans le même temps, elles comportent des messages politiques. En cela, le FDP se distingue vraiment des autres partis.
Les autres partis, et notamment les deux grands partis, la CDU, le parti chrétien-démocrate de la chancelière Angela Merkel, et le SPD, le parti social-démocrate.
La
CDU a complètement dépolitisé ses sujets. Elle utilise uniquement des slogans bien-être. Les affiches du SPD transportent quelques messages politiques, mais ils restent très prudents. Moi, si j'étais le challenger, je montrais au combat, mais ils ne le font pas.
L'une des affiches de la CDU, dont le slogan général est « Pour une Allemagne dans laquelle on vit bien et volontiers », représente deux policiers de dos, un homme et une femme. Le message « Soutenir ceux qui nous défendent ».
On trouve cette affiche aux abords des grandes rues et de fait, on peut confondre ces deux policiers avec ceux qui mettent des amendes sans arrêt ici à Berlin. Ce qui me perturbe aussi, c'est qu'on voit leur dos. Le message est censé être plus de sécurité grâce à plus de policiers. policiers dans l'espace public, mais c'est complètement raté.
Du côté du SPD, une affiche a particulièrement marqué Rupert Ahrens. On y voit une petite fille en train de faire ses devoirs, un stylo à la main. Ses yeux qui louchent et ses joues gonflées montrent que c'est loin d'être une partie de plaisir. À côté d'elle, le slogan suivant, « L'éducation ne doit rien coûter ». Si ce n'est un peu d'effort.
C'est une affiche qui attire tout de suite l'attention. Le message politique est très clair. Tout le monde devrait avoir accès à l'éducation et si possible gratuitement. Et ça s'inscrit bien dans le message global de la campagne du SPD, plus de justice sociale.
Quant à l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, elle s'affiche notamment avec deux jeunes femmes de dos en maillot de bain. Le slogan « Les burkas, nous, on préfère les bikinis ». De la discrimination pure et dure et une provocation de plus du parti populiste. Toutes ces affiches disparaîtront plus tard une semaine après le vote, c'est ce à quoi s'engagent les partis au début de la campagne en déposant une caution. Et s'ils ne tiennent pas cet engagement, ils s'exposent à des amendes pouvant atteindre les 10 000 euros. Audrey Parmentier à Berlin pour la Deutsche Welle.
Du warst schon lange nicht mehr bei dir, du warst schon lange nicht mehr da, wo du hingehörst, wo niemand will, dass du so aussiehst, wie die Menschen, die nichts erwarten, außer Wagen Nummer 3, mit ihrem Platz direkt am Fenster, im geschlossenen Abteil.
Vu d'Allemagne, vu d'ailleurs, cette année, les nerfs de l'Europe ont été mis à plusieurs reprises à rude épreuve en raison des inquiétudes face à la montée des populismes, comme en France ou aux Pays-Bas, ou à la possible interférence de pirates informatiques en provenance de la Russie. En comparaison, les élections législatives en Allemagne semblent plus reposantes, mais notre collègue Thierry Schulz a malgré tout décelé une certaine appréhension en provenance de Bruxelles. Explication. L'Allemagne, la puissance économique et politique de l'Europe, et à sa tête, sans doute pour les 5 années à venir, la super-héroïne européenne Angela Merkel. Elle est défiée par un Martin Schulz, rival éloquent qui a par le passé géré des centaines de législateurs européens. Cela semblait donc être l'affiche parfaite pour un drame politique plein de suspense. Et ben non, le débat télévisé qui a vu s'affronter Angela Merkel et Martin Schulz a été critiqué pour son manque de piment. Il a même été qualifié par certains de conversation. Les deux principaux candidats à la chancellerie ne se différencient pas suffisamment l'un de l'autre pour offrir aux électeurs une alternative claire. Conséquence, une victoire attendue et probablement confortable de la candidate conservatrice et des élections législatives qui provoquent des bâillements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pourtant, ce ne sont pas les thèmes importants qui manquent et Sophia Betsch du Centre pour les réformes européennes aurait souhaité qu'il soit davantage débattu en Allemagne.
Il n'y a pas vraiment eu de débat sur l'Europe en amont des élections allemandes. Et pourtant, il y a tellement de sujets importants, des sujets sur lesquels la position de l'Allemagne en matière de politique étrangère sera déterminante pour l'Europe dans les années à venir. Ces derniers jours, nous avons pu, par exemple, observer la détérioration assez rapide des relations entre Berlin et Ankara. Et puis, il y a toujours la crise des réfugiés et la question de savoir comment consolider l'Europe de la défense.
There's also still the refugee crisis and the question of how to strengthen European defense.
Le rôle de l'Allemagne dans la crise des réfugiés est l'un des sujets qui retient le plus l'attention à travers l'Europe. Alors qu'il ne joue pas un rôle déterminant dans la campagne électorale, la politique d'Angela Merkel reste un objet d'intenses débats dans le reste du continent. Sa décision de laisser entrer 1 million de migrants et de réfugiés ne lui coûtera finalement pas sa réélection. Certaines voix critiques l'espéraient pourtant. Cosma Slotowski, par exemple, eurodéputé pour le parti Droit et Justice, parti conservateur et nationaliste, au pouvoir en Pologne.
Solidarity is when we have common discussion and we make up the decision.
Être solidaire, c'est discuter ensemble et prendre des décisions ensemble. Celle de faire entrer 1,5 million de migrants en Allemagne a été prise personnellement par la chancelière Merkel. Elle n'a demandé à personne d'autre, elle a pris la décision.
Anybody else? She made this decision.
Maywid McGuinness, eurodéputée irlandaise et membre de la fraction conservatrice au sein du Parlement européen, défend, elle, la chancelière Merkel.
Elle a pris cette décision pour empêcher un désastre humanitaire. Il faut se replonger dans les circonstances d'alors. L'Europe n'était pas préparée à ce qui allait arriver. Je pense que la chancelière Merkel a assumé cette décision et c'était une décision courageuse à cette époque. Et d'ailleurs, elle a eu des conséquences difficiles pour elle sur le plan intérieur.
De son côté, Tania Fajon, eurodéputée slovaque, estime que cette crise a mis en lumière un problème qui préoccupe le reste de l'Union européenne.
Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, chaque décision que nous prenons ici, chaque politique que nous décidons à Bruxelles part d'un coup de fil passé à Berlin. C'est la réalité. Je ne souhaite pas que le rôle de l'Allemagne s'affaiblisse, mais cela nous amène de nouveau à nous demander quel type d'Europe nous voulons pour l'avenir. La domination de l'Allemagne est un fait et nous en avons besoin. Mais nous avons aussi besoin d'une direction commune qui soit forte et pas seulement d'une direction allemande.
Tania Fajon précise que si elle était allemande, elle voterait pour son ancien collègue Martin Schulz, car elle a l'impression que l'ancien président du Parlement allemand serait plus à même d'équilibrer les pouvoirs entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. Mais comme Sophia Bech, la toute première interlocutrice, le rappelle, le candidat social-démocrate n'est pas arrivé à transférer sa popularité du Parlement européen à son pays. Et sauf surprise, il va perdre contre Angela Merkel. Tant mieux pour la chancelière, mais à long terme...
De mon point de vue, c'est problématique pour la démocratie allemande dans un sens large, car il n'y a pas de débat et parce que l'opposition est très très faible. Angela Merkel a beaucoup de chance que le parti populiste AfD, qui avait pourtant profité de la crise des réfugiés, ait réussi à se saper lui-même à travers des querelles internes. Mais il pourrait facilement redevenir une menace si les gens ont l'impression que personne ne prend en compte leur avis et si ceux qui critiquent Merkel ne se retrouvent dans aucun autre parti.
Dimanche, la rédaction vous propose une émission spéciale sur les élections allemandes sous la houlette de Sandrine Blanchard et Fréjus Kenhomme. Rendez-vous à 17h en temps universel sur nos ondes, notre site internet dw.com/français et notre page Facebook. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss. Ich schüttel dich, glaub's nicht, schüttel dich, tu's nicht für die anderen, Baby.